Donc c'est la troisième leçon, c'est la troisième fois que nous nous rencontrons pour les 12 portraits philosophiques du Christ. Nous avons déjà traité de Pascal, de Spinoza, et en ce jour, 10 février 2021, nous prenons le troisième portrait, celui de Jean-Jacques Rousseau. Alors nous passons à un siècle suivant. Avec Pascal et Spinoza, nous étions au XVIIe siècle. Maintenant, nous sommes au 18e. Jean-Jacques Rousseau est né en 1712. Il a vécu 66 ans, c'est-à-dire bien plus que Pascal, 39, et que Spinoza, 45. 66 ans, bien qu'il n'ait pas vécu très, très longtemps. Et je vous présente une petite biographie de Jean-Jacques Rousseau. Ensuite, bon, j'étudierai bien sûr sa doctrine, l'homme bon par nature, et puis... sa vision de l'homme, donc le noyau essentiel de la religion naturelle, ça c'est un nouveau thème que l'on va rencontrer avec Rousseau, la religion naturelle, comparée avec la religion révélée, donc celle des grandes religions comme eh bien, le judaïsme, le christianisme, l'islam, la religion naturelle. Le portrait du Christ, qui sera tiré principalement du livre 4 de l'Émile de 1762, au livre 4 de l'Émile, il y a un long discours qui s'appelle « La confession de foi, la profession de foi du vicaire savoyard ». C'est en fait le porte-parole donc, de Rousseau. Je vous ai donné deux pages de texte qui relatent, disons, le passage principal sur le Christ. Ensuite, il va passer de la religion naturelle et de la religion essentielle à la religion civile. Il va écrire le contrat social la même année que l'Émile, 1762. Et donc c'est un penseur politique aussi, qui aura une grande influence sur la Révolution française. Alors nous lirons les deux textes que je vous ai donnés, et très rapidement, nous avons le temps, si nous avons le temps, nous ferons déjà une petite conclusion sur le premier trio, en comparant Pascal, Spinoza et Rousseau. J'ai indiqué Kant, c'est une erreur, et Rousseau sur une série de points. Alors voilà, qui est Jean-Jacques Rousseau? Il est né à Genève, il est suisse, même s'il est d'une famille d'origine française. Et sa vie commence de manière dramatique puisque sa mère meurt en le mettant au monde. 1712, donc voilà. Son père est un artisan horloger. Horloger suisse. Artisan. Et il lui donne une éducation, mais lui-même est un peu fantasque, etc. Il est un peu déjà révolutionnaire, si on veut. Avec les artisans, avec l'élite ouvrière de la ville, ils habitent Genève, la basse ville. La basse ville face à la haute ville de l'autre côté du Rhône, qui est beaucoup plus aristocratique et qui est beaucoup plus calviniste. De cette opposition, d'ailleurs, entre les deux villes, la ville haute, la ville basse, l'aristocratie et, disons, le peuple, eh bien, il y a une opposition farouche, mouvementée, dont Jean-Jacques Rousseau se souviendra toujours, et il gardera à partir de là un attachement profond pour les petites gens du peuple. C'est un penseur, comme vous savez, on dit souvent un penseur du cœur, du sentiment, qui est proche des petites gens. Alors il va monter dans la société, aller auprès des philosophes, etc. Mais il aura toujours cette méfiance pour les philosophes qui, de haut, hein, jugent ceux qui sont sans culture et qui sombrent dans la superstition des religions. Donc une méfiance vis-à-vis de cette ville haute qui représente les riches, les calvinistes, les dévots. Donc lui-même est d'origine calviniste, bien sûr, et orphelin de mère, il est hébergé chez un pasteur à l'âge de 10 ans. À 15 ans, il est mis en apprentissage pour devenir maître graveur, donc artisan. Mais pour échapper à la tyrannie de son patron, il s'enfuit. Fugue. Et il est recueilli par un prêtre catholique cette fois-ci. Ce prêtre catholique le confie à une dame, Madame de Warens. Alors cette dame a une grande importance dans sa vie parce qu'il va vivre auprès d'elle de l'âge de 20 ans à l'âge de 30 ans pratiquement. Il est recueilli par cette convertie au catholicisme, une protestante convertie au catholicisme, Et voilà à laquelle ce prêtre catholique confie ce garçon un peu turbulent et un peu sans parole. Un mois après la rencontre avec Madame de Warens, il se convertit au catholicisme. Conversion un peu hâtive, qui restera toujours pour lui un souvenir pénible, mais quand il se reconvertira au protestantisme en 1754, ça ne lui réussira pas mieux. En fait, il se fabrique sa propre religion. Le séjour aux Charmettes à Chambéry, en compagnie de Madame de Warens, qu'il appelle maman, oui, évidemment, il a perdu sa mère en naissant, c'est quand même un traumatisme, hein. Et voilà, il était destiné à devenir un artisan, mais là, auprès d'elle, eh bien, il reçoit toute une éducation, plus intellectuelle, plus artistique, musicale, paraît-il. Je ne sais pas très bien ce qu'il a fait comme étude musicale, je suis un peu curieux. Mais voilà, c'est une des périodes les plus heureuses de sa vie. Et il est habité, là, de plus en plus par un profond amour de la nature qui s'élève en lui. Après cette période d'une dizaine d'années chez sa protectrice, il a 30 ans, en 1742, il tente sa chance à Paris. Voilà un Suisse de Genève qui tente sa chance à Paris et qui fréquente les milieux intellectuels, les milieux encyclopédistes, c'est-à-dire les philosophes, hein, les philosophes comme Diderot, Voltaire, D'Alembert, toute cette société de haut niveau à Paris, et qui préparent, comme vous savez, par leur théorie athée et leur théorie révolutionnaire, eh bien, l'esprit de la Révolution française qui va bientôt venir. Ces philosophes, Voltaire, Diderot et d'autres, c'est ceux qu'il va appeler les philosophes. Bon, bien sûr, il lira d'autres philosophes, mais quand il parle des philosophes, c'est de ceux-là qu'il parle, les encyclopédistes. Comme d'ailleurs, vous savez, Pascal, quand il parlait des philosophes, il parlait de qui ? Ben, de Montaigne, d'Épictète, de Descartes. Il n'en connaissait guère d'autres. Ici aussi, ce sont surtout donc les encyclopédistes qu'il appelle les philosophes et avec lesquels il nourra d'abord une grande amitié. Il va beaucoup apprendre auprès d'eux. Il se lie d'amitié avec Diderot, avec Voltaire. Et cette période de 1745 à 1755, c'est une décennie très créative de sa carrière. Il commence donc à Paris auprès de ses encyclopédistes. Mais après avoir appris beaucoup de choses auprès d'eux, voilà qu'il se lance lui-même dans l'écriture. En 1749, il répond à une question mise au concours. C'était des choses qu'on faisait à l'époque, hein. Kant aussi a souvent répondu à des questions mises au concours. On pose une question, et la question est la suivante. Le progrès des sciences et des arts a-t-il contribué à la corruption ou à la pureté des mœurs ? Voilà, est-ce que la science et les arts favorisent, hein, la moralité, élèvent l'homme ? Alors bien sûr, pour les encyclopédistes, pour les gens éclairés, les lumières, comme on dit, hein, évidemment, ben, c'est la science qui enfin a élevé l'homme, hein, un peu plus haut que le faisait la superstition de la religion. Eh bien voilà que Rousseau répond que science et art ont été nuisibles à l'humanité, et le sont encore. Donc il va complètement contre l'esprit des encyclopédistes qui exaltaient le rationalisme et le scientisme. Et voilà que Rousseau, bon, grand amoureux de la nature, hein, qui a appris beaucoup par lui-même dans le grand livre de la nature, eh bien se déclare opposé à cette science et à ces arts qui corrompent l'homme, sont nuisibles à l'humanité. Alors là, c'est une bombe, parce qu'on croyait qu'il était du côté des encyclopédistes, hein, de ses amis les encyclopédistes. Eh bien, il dit le contraire. Et voilà que tout à coup, que ça sort en public. Il écrit très bien. Il reçoit un prix pour ce livre, Discours sur les arts et les sciences. Mais évidemment, il se heurte de front aux encyclopédistes qui, du jour au lendemain, il devient un homme célèbre. Mais en même temps, ça consacre sa rupture avec les philosophes, sa rupture avec les encyclopédistes. Première rupture importante de sa vie avec les philosophes. Philosophes athées d'ailleurs, hein? Philosophes rationalistes, etc. Sauf pendant cette petite période où il était ami des encyclopédistes, il refuse le titre de philosophe. Il dit « Je ne suis pas un philosophe, je suis un ami de la vérité. » Un ami de la vérité. Je ne veux pas me confondre avec les philosophes, ceux qui portent ce titre, mais qui sont en fait des rationalistes, et ce rationalisme détruit la nature bonne de l'homme, qui est au fond d'abord son cœur, son sentiment inné de ce qui est bien, de ce qui est vrai. La raison vient avec tous ces raisonnements, un peu frelater tous ces sentiments innés. Voilà ce qu'il dit dans ce discours sur les sciences et les arts. Ce livre, donc cet ouvrage, paraît en 1750, année de la mort de Jean-Sébastien Bach. Et voilà, ça le rend célèbre, mais c'est une bombe un peu dans le paysage philosophique. Et voilà que les encyclopédistes ont en face d'eux quelqu'un qui a du succès et qui dit le contraire de ce qu'ils disent. Alors que d'habitude, à ce moment-là, à Paris, tout le monde est du côté des encyclopédistes. Un peu plus tard, il écrit « Discours sur l'origine de l'inégalité ». Et là, il entre un peu dans la philosophie politique, et là aussi, il s'oppose à la philosophie à la mode. Et puis, en 1761, « La nouvelle Héloïse », un roman épistolaire. En 1762, période, année très faste, puisqu'il écrit à la fois « Le contrat social » et « L'Émile ». Il publie à ce moment-là. Le principal écrit religieux de Rousseau se trouve donc dans cet Émile ou de l'éducation. Au livre 4, il y a un long passage, parce que lui c'est un peu un auteur fleuve, il écrit très bien, on ne sait pas très bien où il va, mais finalement ça se dégage, on voit de quoi il parle. Profession de foi du vicaire savoyard. Donc voilà, c'est un vicaire en Savoie. Qui a une vraie vocation, une bonne vocation, mais au fur et à mesure de son ministère, il se pose quelques questions. Est-ce qu'il fait bien de raconter certaines choses aux gens qui semblent absolument incroyables et tout ça? Et puis oui, il faut quand même le faire, mais enfin, avec modération, pas trop parler des miracles, pas trop parler de la Trinité, c'est un peu bizarre. La révélation, dire que la Bible est la révélation, d'accord. Mais enfin, voilà, ce vicaire savoyard devient un peu rationaliste, mais finalement, il se décide à garder quand même l'essentiel de la foi. Et alors là, c'est justement un des termes importants chez Rousseau, la religion essentielle, les éléments essentiels de la religion. Donc dans ce livre, l'Émile, il rejette à la fois le matérialisme athée des philosophes, mais aussi le dogmatisme des religions positives. Les curés racontent quand même beaucoup de balivernes. Ils ont une bonne intention, l'essentiel est bon, mais quand même c'est emballé dans beaucoup de choses inutiles, accessoires. Cet écrit, évidemment, en 1762, lui vaut le bannissement de sa patrie, la Suisse, Genève, les différents cantons, progressivement, déclarent le bannissement de cet auteur qui attaque la religion, parce que la religion, le calvinisme, est religion d'État. Et de 1762 à 1768, il souffre de ce bannissement de sa patrie. Alors il s'enfuit, mais en France, il n'est pas mieux accueilli. Il essaye d'aller en Angleterre, il est accueilli par le philosophe Hume, mais Hume est un fameux philosophe décapant, comme quelqu'un qui veut décaper le christianisme, on n'a qu'à lire Hume, c'est un peu forcé, c'est dur à lire. Voilà, donc il mène un peu une vie errante, il va quand même en France, quand même en Suisse, mais un peu en se cachant, etc. Et donc, après avoir fait la rupture avec les philosophes, du côté des athées, il fait la rupture avec les religieux, les dévots. Voilà, ce sont ces deux persécutions. Et donc il mène une vie difficile, une vie errante, et il le vit un peu en se posant en martyr et en ami douloureux de l'humanité qui ne le comprend pas. Deux persécutions venant de deux francs opposés, parce que les philosophes ne sont pas du tout d'accord avec les calvinistes, ni les calvinistes avec les philosophes, il est persécuté des deux côtés. Et c'est là qu'il écrit ses confessions, confession pour un peu se justifier. Et puis, n'arrivant même pas à se justifier et à se faire comprendre, eh bien, il décide d'écrire uniquement pour lui-même les rêveries du promeneur solitaire. Ça, il n'écrit pour personne que pour lui-même, dit-il. Voilà, Rousseau lui-même lisait peu, et surtout pas de livres savants. Il était, paraît-il, un piètre latiniste, je l'ai lu dans un article. Il s'inspira quand même de plusieurs auteurs latins, dont Spinoza d'ailleurs, dans son traité théologico-politique qui est écrit en latin. Et il est, comme Spinoza d'ailleurs, un moraliste, un penseur politique. Il aura une très grande influence sur les penseurs de la Révolution française, à côté de celle des encyclopédistes. Les encyclopédistes ont une influence sur la Révolution française, mais beaucoup plus athée, alors que Rousseau, eh bien, c'est un théisme. Et Robespierre, avec le culte du grand être, etc., eh bien, s'inspirera un peu de la philosophie de Rousseau. Alors, pour Rousseau, c'est le point 2, l'homme est bon par nature. C'est justement, eh bien, la civilisation, la culture, la société qui le corrompt. L'homme est bon par nature. Le pouvoir de connaître et d'accomplir le bien est inscrit dans notre nature. Et il faut laisser parler notre cœur, notre conscience qui est une conscience morale, mais qui est une conscience plus large, un peu métaphysique aussi, très proche du cœur, du sentiment, au sens le plus noble du terme. Voilà, ça, c'est là, cette instance-là, cette faculté-là qui est première dans l'homme et qu'on doit toujours écouter. Et la raison doit se soumettre aux intuitions premières du sentiment, du cœur. Si la raison s'en détache et commence à raisonner, eh bien, elle devient une machine infernale qui détruit l'homme. Donc, voilà, cette conscience a une grande importance. Et grâce à cette notion de conscience, eh bien, Rousseau a eu le mérite d'élargir la notion de raison, que les philosophes réduisaient à une raison raisonneuse. On pourrait dire que c'est un petit peu la distinction que Kant fera entre l'entendement et la raison, théorique ou pratique. La conscience, ça c'est la raison pour Kant. La raison raisonneuse, c'est l'entendement. Voilà, chaque philosophe a un peu son vocabulaire. Voilà ce qu'écrit Rousseau. Conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre. Le juge infaillible du bien et du mal, toi qui rends l'homme semblable à Dieu. C'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. Conscience, sans toi, je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes. Que le triste privilège de m'égarer d'erreur en erreur à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Voilà, il y a un entendement, il y a une raison, mais si elles ne puisent pas leur principe dans la conscience, dans le cœur, eh bien cet entendement et ces raisons sont sans règle, sans principe et sont destructrices. Ce passage, comme vous voyez, se termine sur une critique de la raison. Alors la raison, faut-il la critiquer ou pas? Parce qu'on trouve un peu les deux chez Rousseau. Par exemple, dans la profession de foi du vicaire savoyard, dans la première partie, eh bien, on critique beaucoup la raison. Parce qu'on l'oppose à la conscience. Il faut que la raison suive la conscience. Et là, il y a une critique de la raison. La conscience est donc première et la raison doit s'y soumettre. Mais dans la deuxième partie de la profession de foi, la raison est exaltée. Mais là, la raison n'est pas opposée à la conscience, elle est opposée à la révélation religieuse. Alors lorsque on compare révélation religieuse, religion positive, etc., et la raison, c'est la raison qui a raison, qui est première. Mais elle doit s'appuyer d'abord sur le cœur, sur la conscience. Comme chez Pascal, voilà, la raison, le cœur est premier. Je le sais parce que je le sens. Voilà ce qu'écrit Rousseau plusieurs fois. Je le sais parce que je le sens. Et il y a cette confiance en ce que nous sentons. Sinon, la raison se pervertit. Le raisonnement n'est valable que lorsqu'il s'appuie sur les évidences du cœur. Quant à la foi, je n'ai pas cette foi, dit-il, je n'ai pas cette foi dont j'entends se vanter tant de gens d'une probité si médiocre. Ils ont la foi, mais leur moralité... Je n'ai pas cette foi dont j'entends se vanter tant de gens d'une probité si médiocre. Il écrit bien, mais parfois il faut relire deux fois pour comprendre tout à fait ce qu'il dit. Je n'ai pas le bonheur de voir dans la révélation l'évidence qu'ils y trouvent. Et si je me détermine pour elle, pour la révélation, c'est parce que mon cœur m'y porte. Et là, je trouve dans la révélation quelque chose, parce que mon cœur me fait reconnaître dans la révélation quelque chose d'essentiel. La sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Le culte essentiel est celui du cœur. Et donc, point 3, le noyau essentiel de la religion naturelle, le noyau essentiel, c'est donc, voilà, ce qu'on entend que le cœur nous dit. C'est une religion déiste, théiste même, parce qu'il croit en un Dieu personnel, pas en un Dieu trinité. La Trinité, c'est une curiosité théologique inutile. Mais voilà, il est plus que déiste, il est vraiment théiste, au sens où on fait cette distinction. Le déiste croit en un Dieu, et le théiste affirme que ce Dieu est vraiment personnel. Rousseau, donc, se propose de retrouver une sorte de noyau essentiel de la religion dans un siècle où la religion est l'objet de violentes attaques de la part de tous les philosophes, des encyclopédistes. Donc c'est vrai qu'il mitige la religion, mais en même temps il la défend. Mais il défend cette religion essentielle. Diderot, Voltaire, D'Holbach, Helvétius, Lavétrie, tous ces gens-là, eh bien, en veulent à la religion et la détruisent complètement. Ce n'est pas ce que fait Rousseau. Il veut d'une certaine manière respecter la religion, celle de son enfant, celle aussi du petit peuple dont il se sent solidaire. Le petit peuple, c'est facile d'être athée lorsqu'on est riche, dit-il. Mais les pauvres, il ne faut pas leur enlever leur espérance, leur unique consolation en leur parlant de cet athéisme sec. Mais il ne faut pas non plus bercer les pauvres de l'illusion du miracle et de 36 superstitions. Il faut aussi leur dire qu'il y a des balivernes dans le catéchisme, mais il ne faut pas leur enlever la foi en Dieu qui existe et qui est bon, car la bonté de Dieu est le premier attribut de la divinité, la bonté. Lui-même dit qu'il a toujours senti la main de Dieu sur son épaule. Et lui qui a vécu quand même une vie un peu mouvementée, persécutée, errante et tout ça, dit « Je n'ai jamais été abandonné par Dieu ». Donc vraiment un sentiment personnel de la divinité. Mais, dit-il, on ne peut sauver l'édifice de la religion sans consentir à sacrifier ce qui est accessoire. Vous voulez sauver l'édifice? Eh bien, enlevez quelques accessoires parce que sinon ça va s'écrouler. Les catholiques, eux, s'obstinent à vouloir jouer à quitte ou double en refusant de distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est à prendre ou à laisser. Prenez tout, même ce qui est accessoire et ce qui est absurde, ou bien alors vous ne croyez rien. Ben non, ça va pas, dit-il. Les catholiques s'obstinent à faire cela. Non, on ne joue pas à quitte ou double. Tandis que les protestants sont davantage conscients de la nécessité de sacrifier quelques branches pour conserver le tronc. Donc évidemment, il est plus d'origine protestante, mais même les protestants racontent encore des balivernes. Rousseau, au point de départ, refuse tous les livres sauf celui de la nature. Et il ne veut s'appuyer sur aucune révélation surnaturelle. Il faut que ce soit des révélations naturelles, celle de la nature est déjà suffisamment puissante. Les dogmes de cette religion naturelle sont des vérités éminemment pragmatiques, pas théoriques, pragmatiques. Il les oppose aux dogmes purement spéculatifs, qui sont inutiles et accessoires. Il exclut les théologiens afin d'éviter de vaines discussions. Il n'a aucune curiosité théologique, notre ami Rousseau. C'est un moraliste, un philosophe politique. il est peu disposé à accepter, par exemple, le mystère de la Trinité, qu'il considère comme une curiosité inutile. Mais le premier dogme de sa religion, voilà, je les ai mis là, les trois dogmes principaux de sa religion naturelle. Le premier, je crois qu'une volonté meut l'univers et anime la nature. Une volonté. Il y a une volonté qui est bonne dans la nature, en toute chose. Deuxième dogme, la matière mue selon certaines lois nous montre une intelligence. Alors là, il entre en discussion avec les philosophes, hein, qui étaient souvent des rationalistes, atomistes, bon, qui commencent à dire tout vient du hasard, tout est mécanique, etc. Et lui, il n'a pas peur de dire, les athées sont réduits à formuler les hypothèses les plus absurdes pour expliquer l'ordre régnant dans l'univers. Ce qu'il a entendu chez les matérialistes ne l'a absolument pas convaincu. Les matérialistes disent qu'ils ont l'explication de la nature. Il dit non, la nature c'est beaucoup plus que ce que vous inventez là avec votre mécanisme, avec votre empirisme. Vous vous souvenez que le siècle passé on croyait à l'homme-machine, à l'animal-machine, etc. Que tout ça marchait par une espèce d'instinct mécanique et que l'esprit était une espèce de d'épiphénomènes au-dessus du corps qui constataient que le corps marchait comme une machine. Même Pascal, hein, Descartes bien sûr, mais Pascal était un peu dans cette vision de l'homme, hein, du corps de l'homme. Donc il y a une intelligence. Il y a une volonté d'abord, il y a une intelligence. Et enfin, troisième dogme, l'immatérialité de l'âme, que Rousseau affirme conjointement à la liberté humaine, implique à son tour son immortalité. Immatérialité et immortalité de l'âme. Postulat donc de la conscience morale, comme chez Kant. Alors, par parenthèse, ceux qui ont suivi le cours Légèreté de l'homme, eh bien, reconnaîtront peut-être, dans un autre ordre, eh bien, ce que Karl Rahner disait dans Hörer des Wortes, à l'écoute du verbe, lui aussi de manière un peu plus compliquée, un peu plus métaphysique, hein. Eh bien, avec son côté ontologique et puis son côté anthropologique, découvrait au fond, hein, que l'être était intelligible, et puis qu'il était mu par une volonté, et puis que notre propre volonté était appelée à répondre à cette intelligence et à cette volonté. Voilà, c'est un peu semblable. Le dieu de Rousseau n'est pourtant pas le dieu des savants, celui des philosophes, qui déclarent la guerre au dieu du christianisme. La bonté est le plus important attribut de la divinité et il le trouve dans la religion. Dans la religion naturelle, mais la religion chrétienne et même les autres religions ont leur fondement dans cette religion naturelle. Hein? La religion naturelle n'est pas une décantation des religions révélées, c'est l'inverse. Hein? C'est la religion naturelle, selon lui, qui est le fondement de ces religions historiques, hein, soi-disant révélées, qui ont, oui, habillé plus ou moins ces grands dogmes, à travers une histoire, une narration et tout ça, en rajoutant beaucoup de surnaturel, en rajoutant beaucoup de choses. Mais voilà, hein, lui croit que Dieu est ce créateur bienveillant qui porte un regard sur la vie humaine et l'accompagne continuellement. Et c'est dans la fusion avec la nature qu'il communie à la divinité. Le Dieu des rêveries n'a pas d'autre nom que celui du grand être. Mais c'est un être personnel. Rousseau affirme la transcendance de Dieu, son caractère personnel. Il rejette absolument toute forme de panthéisme. Il ne confond pas la nature et Dieu. Mais c'est dans la nature qu'il rencontre la présence de Dieu. La prière. Il prie, il dit souvent qu'il prie. Et cette prière nous permet d'entrer en dialogue avec Dieu. Mais la prière, c'est essentiellement l'adoration, la vénération. Ce n'est pas le repentir, ce n'est pas l'intercession, non, c'est l'adoration. L'action de grâce. Voilà, une prière très ouverte, pas du tout culpabilisante, pas du tout culpabilisée. Il ne faut pas demander pardon et tout ça. Non, il faut simplement adorer. Les confessions de Rousseau, 1765, après son bannissement de la Suisse, confessions, ce ne sont pas du tout les confessions d'un pécheur. Hein, parce que Rousseau et le péché, hein, ne comprend pas très bien ce que c'est. Hein. Tout est bon, tout est bien, bon, etc. Le pardon, l'aveu, tout ça, ce sont des humiliations inutiles de la religion catholique ou protestante. Hein. Il faut simplement être en contact avec Dieu communier avec lui. Les confessions de Rousseau, donc, ne contiennent nullement les aveux d'un pécheur, mais plutôt l'apologie d'un juste. Il explique qu'on le persécute injustement. Rousseau voit donc dans cette recherche d'aveux et de pardon, etc., des humiliations inutiles. Il faut adorer de tout soi-même Dieu qui nous est révélé dans la nature. Et il faut se fier à ce sentiment. Si nous devions accrocher notre religion aux lumières de la raison, nous devrions sans cesse suspendre notre jugement, parce que la raison n'aboutira pas à conclure ou à prouver que Dieu existe. C'est le sentiment intérieur qui nous met en présence de Dieu. Ce sentiment intérieur nous empêche d'ailleurs d'être ébranlés par tous ces sophismes des philosophes. Vous entendez un philosophe vous démontrer que par A plus B, que Dieu n'existe pas, vous l'écoutez, vous comprenez son raisonnement, mais vous dites c'est faux. Parce que vous avez ce sentiment intérieur que les prémices sont fausses. Ce n'est pas la raison. Et la raison peut prouver, ne fait pas, mais pourrait prouver que Dieu existe si elle se base sur un sentiment préalable. Mais pas si elle part d'elle-même. Si elle veut tenir sur elle-même, la raison, fait des sophismes. Le sentiment est appelé à guider la raison. Le cœur est appelé à guider la raison. C'est très pascalien à ce niveau-là. La question du mal. Rousseau ne peut affirmer l'existence d'un Dieu bon sans se heurter au problème du mal. Cible de tous les philosophes, tous les philosophes athées. Vous dites Dieu est bon, et alors le mal, objection numéro 1 des philosophes. Eh bien Rousseau dit non, ce n'est pas une objection. Ce n'est pas une objection. La source du désordre, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est la civilisation. C'est la mauvaise volonté des hommes. Ce n'est pas Dieu. Rousseau disculpe complètement Dieu. C'est l'homme qui est la source du désordre. Pour lui, l'objection du mal n'est pas une objection contre l'existence de Dieu. Quant au mal physique, Rousseau prétend ne pas lui accorder une franche attention. Voilà, c'est comme ça. Il admet, ça fait partie de la nature. Il minimise l'importance de la mort, de la douleur physique. Pour lui, ça, ce n'est pas le vrai mal. L'affirmation de la liberté humaine face à la nature, qui bien sûr comporte des aspects agréables ou désagréables, l'affirmation de la liberté bonne de l'homme permet à Rousseau de ne pas rejeter sur Dieu la responsabilité du mal. Alors voilà, c'est une question qu'on va encore rencontrer plusieurs fois. Est-ce qu'il faut parler du mal lorsqu'on parle de l'existence de Dieu? Est-ce que c'est un rapport entre les deux? Est-ce que c'est une vraie objection? Certains trouvent que c'est une objection très sérieuse, que celle du mal physique ou du mal moral. Eh bien, d'autres pas. Rousseau, par exemple, dit « Non, la nature est bonne. Elle nous met en présence de Dieu, elle nous fait vénérer et adorer Dieu. Et le mal, il est là. Ce n'est pas une objection en soi. » Vous savez qu'un autre va dire cela, avec un autre, sur un autre ton. Mais Nietzsche va dire cela. Nietzsche va nier l'existence de Dieu, bien sûr, mais il dit, ceux qui prétendent prouver que Dieu n'existe pas à partir du mal, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ils ne savent pas ce que c'est le mal. Ils ne savent pas ce que c'est le bien. L'objection du mal contre Dieu est une objection vulgaire. Vulgaire. Dieu, s'il existe, est au-dessus de cette question. Vous pouvez attaquer Dieu avec des arguments, mais l'argument du mal, c'est un argument vulgaire contre Dieu. Il faut des arguments plus nobles pour prouver que Dieu n'existe pas. Voilà, c'est assez intéressant. Mais lui aussi, il minimise à la question du mal, un peu pour d'autres raisons, par-delà le bien et le mal, etc. Mais là, au moins, c'est un lieu où ces deux philosophes se rejoignent. Eh bien, je crois que c'est important. Est-ce que la question du mal est vraiment une objection contre l'existence de Dieu ou la bonté de Dieu, etc.? Moi, je vois que certains trouvent que c'est vraiment une grosse objection. Je vois que d'autres la minimisent beaucoup, dans un sens un peu stoïcien ou un peu, rousseauiste ou nietzschien, je ne sais pas. C'est une bonne question. On en reparlera. Religion naturelle et religion révélée. Donc il y a la religion naturelle, il y a la religion révélée, il y a l'essentiel de la religion, hein, donc l'essentiel qui est dans la religion naturelle et sur qui est le fondement des religions révélées. Mais qu'en est-il des religions révélées comme telles? Eh bien, les différentes religions, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Bon, il y a les principales, bien sûr, mais notre appartenance à une religion est le plus souvent l'effet du hasard. C'est une question de géographie. Voilà. Vous êtes né dans tel canton, vous êtes né dans telle ville, ben, vous avez telle religion, évidemment. Hein. Vous êtes né dans un autre pays, c'est de la géographie. C'est de la géographie. Impossible de comparer, d'ailleurs, les religions entre elles, parce que vous devriez la comprendre de l'intérieur. Et pour la comprendre de l'intérieur, vous devriez être né là-bas. Hein? Impossible d'être né à deux endroits différents pour vraiment comprendre. Hein? Donc, dit-il, voilà, hein, tenons-nous à cette religion essentielle et ne nous préoccupons pas trop des religions révélées qui ont pourtant, bon, leur mérite. Hein? Qui ont leur mérite. Mais si on voulait vraiment faire la part des choses, il faudrait entreprendre un véritable tour du monde, hein? Et s'inculturer dans chaque pays, hein, pour savoir finalement quelle est la meilleure religion, hein, ou la plus vraie. Une existence humaine n'y suffirait pas. Les religions dites révélées ne sont que des vulgarisations de la religion naturelle, qui à la fois l'explicite, mais aussi l'obscurcisse, l'embrouille un peu. La religion naturelle ne vient pas s'ajouter, hein, aux religions révélées, se juxtaposer à elle comme une autre religion en plus. Elle est leur fondement sous-jacent. Elle est ce qu'il y a proprement de religieux dans les religions. Et si ce n'est pas, si ça ne fait pas partie de la religion naturelle, eh bien ça a été ajouté et ce n'est pas tellement religieux. C'est narratif, c'est historique, c'est superstitieux, selon lui. Alors la question de la révélation est finalement une question insurmontable. Une question gênante, une hypothèse qu'on ne parviendra jamais à vérifier. Est-ce que Dieu s'est révélé? Christianisme, judaïsme, mahométisme sont grosso modo conformes à la religion naturelle. Non seulement Rousseau range le christianisme parmi les religions conformes à la religion naturelle, mais il la définit même, il le définit, le christianisme, comme la religion naturelle la mieux expliquée. Mais quand même, un peu embrouillé, hein, mais quand même la mieux expliquée. Il s'estime heureux, pour sa part, d'être né dans la religion la plus raisonnable et la plus simple qui soit sur Terre. Mais il avoue que c'est parce qu'il est né à Genève, hein, et parce qu'il a beaucoup fréquenté les Français. Mais il prône au fond un culte purement intérieur. Il présente l'Évangile comme le seul livre nécessaire aux chrétiens, et d'ailleurs l'ouvrage le plus utile à tous les hommes, l'Évangile. Le livre de la nature et l'évangile partagent le même langage. Rousseau repousse le christianisme théologique et le culte extérieur, surtout dans la religion catholique. Il n'aime pas du tout la religion des clercs, des prêtres, et il n'a que faire des balivernes du catéchisme. Alors la religion des prêtres, là aussi, il est très sévère, comme d'ailleurs Kant. Pfaffentum, hein, c'est le clergé, Pfaffentum, hein, mais... dans le sens un peu de... avec un mot un peu injurieux. Je suis chrétien et sincèrement chrétien selon la doctrine de l'Évangile, dit-il. Je suis chrétien, non comme un disciple des prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ. Mon maître a peu subtilisé sur le dogme et beaucoup insisté sur les devoirs. Il prescrivait moins d'articles de foi que de bonnes œuvres. Et donc... nous en arrivons au portrait du Christ. Rousseau réserve une place assez mal définie à l'Évangile, au Christ, à la religion positive du christianisme, mais quand même, il se réclame ouvertement de l'Évangile du Christ. L'Évangile, c'est quoi pour lui? Principalement le Notre Père, les béatitudes, le sermon sur la montagne. Le kérigme n'est pas surchargé, les miracles sont, eh bien, une contre-preuve, un contre-témoignage. Ôtez les miracles de l'Évangile et toute la terre sera aux pieds de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit. Hein. Ôtez les miracles de l'évangile et vous convaincrez tout le monde. Parce que Jésus, vraiment, eh bien, est le témoin véritable hein, de la religion naturelle. Les miracles et les prodiges qui enfreignent l'ordre naturel de cette belle nature qui n'a pas besoin de miracle, elle est déjà un miracle en soi, sont bel et bien un contre-témoignage. Alors il écrit par exemple ceci, il écrit bien, hein, « Laissez-moi de grâce aller voir ce pays merveilleux où les vierges accouchent, où les dieux naissent, vivent, mangent, souffrent et meurent. Que j'aille savoir pourquoi les habitants de cette Jérusalem ont laissé traiter Dieu comme un scélérat. Laissez-moi visiter ce pays merveilleux. » Voilà, Jésus confronté à Socrate. C'était une habitude hein, parmi les païens de confronter Jésus et les philosophes, notamment Socrate, et Dolbach et d'autres eh bien, font le procès de Jésus et de Socrate au profit de Socrate. Eh bien Rousseau, pas du tout. Hein. Il trouve en Jésus tant d'énergie, de simplicité admirable. Socrate manifeste une trop grande confiance dans la raison. Dans la raison. Il a inventé la morale. Pas du tout, il ne l'a pas inventé. On l'a inventé bien avant lui. Mais lui, il la rationalise. Et ça, c'est pas bien. L'idéal moral proposé par Socrate présente peu d'originalité. Tandis que le Christ est un vrai inventeur moral. Il a vraiment apporté quelque chose de neuf à la moralité. La mort de Socrate était facile, entourée d'amis. Tandis que celle du Christ est ignominieuse et dramatiquement solitaire. Le Christ s'est heurté à la dureté et la vilainie des Juifs, de sorte que son plan d'évangélisation a échoué à Jérusalem, aussi à cause de sa trop grande douceur, trop doux quand même, Nietzsche va aussi lui faire ce reproche, qui tient plus de l'ange et du Dieu que de l'homme, qui ne l'abandonne pas un instant cette douceur, même sur la croix, et qui fait verser des torrents de larmes à qui sait lire sa vie comme il faut. À travers, bien sûr, le fatras dont ces pauvres gens l'ont défiguré. Heureusement, on reconnaît encore l'homme divin, mais la terrible objection des miracles doit être résolument écartée. Il n'y a pas de résurrection, bien sûr. Le sens du péché peut développer, et donc Jésus n'est pas vraiment un rédempteur. Mais il a joué un rôle politique important. Un rôle politique. Il a changé quelque chose vraiment dans ce pays, hein, grâce à cette nouvelle morale. De nouveau, je lis Rousseau, rien ne l'embarrassait, Jésus, rien ne l'embarrassait. Les questions les plus captieuses que le désir de le perdre lui faisait proposer avaient à l'instant des solutions dictées par la sagesse. Il ne fallait que l'entendre une fois, ce Jésus, pour être sûr de l'admirer toujours. On sentait que le langage de la vérité ne lui coûtait rien, parce qu'il en avait la source en lui-même. Le langage de la vérité, il en avait la source en lui-même. Religion, alors un peu plus tard, à partir du contrat social, etc., eh bien, il a développé l'idée de religion civile. Il y a une religion naturelle, il y a la religion positive, eh bien il faudrait une religion civile. Idée qui viendra bien sûr dans la Révolution française. Hein. Parce que une société sans religion va à sa ruine. L'abandon de toute croyance religieuse entraîne de manière inévitable la ruine de la société. La religion joue un rôle important dans la cité du contrat social en 1762. Il faut insuffler aux citoyens non seulement le respect, mais l'amour des lois et le sens du devoir. L'athéisme menacerait l'existence même de l'État. Cependant, le christianisme n'est pas la bonne religion civile, trop universelle, pourrait même être subversive. L'idée d'un État chrétien est une contradiction, dit-il. Le christianisme ne peut pas devenir la religion du citoyen. Il faut quelque chose de plus naturel, de plus simple, de plus fondamental. La religion la plus vraie, qui est sans doute le christianisme, n'est pas nécessairement la plus sociale. Pourquoi ? Ben, il y a différentes raisons, mais entre autres, les prétentions abusives du clergé ont fortement aggravé l'antagonisme entre religion et société. Il faudrait créer une religion purement civile. Le contrat social sacralise ainsi la cité et le pacte qui lui donne naissance. Dans cette religion civile, il n'y a qu'un dogme, et il est négatif. Il faut exclure toute forme d'intolérance. Or, dit-il, les calvinistes sont intolérants, mais les philosophes aussi sont intolérants. Donc la religion civile doit être complètement à l'inverse de ces deux excès. Voilà, l'apologie de la nature chez Rousseau ne présente pas un caractère anti-religieux, comme chez bien des philosophes. Il ne se contente pas de dénoncer l'intolérance des religions positives. Il prétend aussi trouver chez les philosophes bien des traces d'intolérance à l'égard de la religion. Et il se présente comme le défenseur des valeurs religieuses que les philosophes tendaient à nier. Mais il reste bien sûr imprégné de l'esprit des Lumières et d'un côté rationaliste, naturaliste. Le Christ dont il se réclame n'est pas un Dieu sauveur, les dogmes de la religion naturelle ou de la religion civile présentent peu d'originalité, ils nous mettent en présence d'une sorte de christianisme appauvri. Alors maintenant, je vous propose de lire les deux textes du Savoyard, mais je crois que je n'ai pas le texte ici. Alors, je les ai tous distribués ou quoi ? Ouais. Alors voilà, profession de foi du vicaire savoyard. Je vais lire l'essentiel, mais je vais sauter le passage, un petit passage. Je vous avoue aussi que la majesté des Écritures m'étonne. Donc c'est un jeune prêtre, hein, qui a déjà bien réfléchi, qui professe donc sa foi en disant cela. Je vous avoue que ça m'étonne. La sainteté de l'Évangile parle à mon cœur, je vous l'ai déjà cité. Voyez les livres des philosophes avec toute leur pompe, qu'ils sont petits près de celui-là. Se peut-il qu'un livre, à la fois si sublime et si simple, soit l'ouvrage des hommes? Se peut-il que celui dont il a fait l'histoire ne soit qu'un homme lui-même? Il n'affirme pas la divinité du Christ, mais de temps en temps il met un petit point d'interrogation, là, peut-être plus littéraire que théologique, hein, mais quand même. Est-ce là le ton d'un enthousiaste ou d'un ambitieux sectaire? Quelle douceur, quelle pureté dans ses mœurs. Quelle grâce touchante dans ses instructions. Quelle élévation dans ses maximes. Quelle profonde sagesse dans ses discours. Quelle présence d'esprit dans ses controverses, par exemple. Quelle finesse et quelle justesse dans ses réponses. Quel empire sur ses passions. Où est l'homme, où est le sage qui sait agir, souffrir et mourir sans faiblesse et sans ostentation? Quand Platon peint son juste imaginaire, couvert de tout l'opprobre du crime et digne de tous les prix de la vertu, il peint trait pour trait Jésus-Christ. Platon devient le prophète de Jésus-Christ, hein, dans sa République. La ressemblance est si frappante que tous les pères de l'Église l'ont senti et qu'il n'est pas possible de s'y tromper. Quel préjugé, quel aveuglement ou quelle mauvaise foi ne faut-il point avoir pour comparer le fils de Sophronisque au fils de Marie. Quelle distance de l'un à l'autre. Socrate, mourant sans douleur, sans ignominie, soutint aisément jusqu'au bout son personnage. Et si cette facile mort n'eût honoré sa vie, on douterait si Socrate, avec tout son esprit, fût autre chose qu'un sophiste. Il inventa, dit-on, la morale. D'autres avant lui l'avaient mise en pratique. Il ne fit que dire ce qu'ils avaient fait. Il ne fit que mettre en leçon leurs exemples. Alors, je passe quelques lignes peut-être. Mais où Jésus avait-il pris chez les siens cette morale élevée et pure dont lui seul a donné les leçons et l'exemple? Le peuple juif, pour lui, n'est pas un peuple vraiment à exalter pour sa morale. Du saint, du plus furieux fanatisme des juifs, la plus haute sagesse se fit entendre. Et la simplicité des plus héroïques vertus honora le plus vil de tous les peuples. La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis, est la plus douce qu'on puisse désirer. Celle de Jésus, expirant dans les tourments, injurié, raillé, maudit de tout un peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate, prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la lui présente et qui pleure. Jésus, au milieu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. Dirons-nous que l'histoire de l'Évangile est inventée à plaisir? Alors ça, c'est assez intéressant. Mon ami, ce n'est pas ainsi qu'on invente. Et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Ce sont des objections qu'on fait encore aujourd'hui. Hein. Est-ce que Jésus a existé, tout ça, et Onfray dit que tout ça, c'est des inventions? Eh bien, voilà ce qu'en pense Rousseau. Hein. Jésus-Christ est mieux attesté que Socrate, dont on ne doute pas d'ailleurs. Au fond, c'est reculer la difficulté sans la détruire. Il serait plus Alors ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Il serait plus inconcevable que quatre hommes d'accord eussent fabriqué ce livre, qu'il ne l'est, inconcevable, qu'un seul en ait fourni le sujet. Voilà. À dire que quatre hommes ont écrit la même histoire, c'est absolument invraisemblable. Mais c'est encore plus invraisemblable l'histoire du héros de ces quatre livres. Jamais des auteurs juifs n'eussent trouvé ni ce ton ni cette morale. Vous voyez qu'il ne tient pas le peuple juif en haute estime. Et l'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. Avec tout cela, ce même Évangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à la raison et qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ni d'admettre. Que faire au milieu de toutes ces contradictions? Être toujours modeste et circonspect, mon enfant, respecter en silence ce qu'on ne saurait ni rejeter ni comprendre, et s'humilier devant le grand être qui seul sait la vérité. Voilà donc un beau passage, me semble-t-il, hein, qui en dit long sur toutes sortes d'aspects de Rousseau que j'ai essayé de vous présenter. Voilà, le grand être, les philosophes, la raison, etc. Alors, sous forme de conclusion, sur notre premier trio, alors ici, on pourrait faire un long discours, mais j'improvise un petit peu, et vous pouvez improviser avec moi si vous voulez. Comment ces auteurs conçoivent-ils, Pascal, hein, Spinoza et Rousseau, comment conçoivent-ils la Bible, le peuple juif, les prophéties? Mais par exemple, pour le peuple juif, vous savez que Pascal, dans ses pensées, a certaines pensées qui concernent le rabbinage. Il a été étudié chez les rabbins, etc., dans le Talmud, des choses qu'il conserve et qu'il respecte dans le peuple juif. Spinoza, juif lui-même, trouvait que le judaïsme était une religion complètement particulière, qu'il fallait dépasser dans une religion universelle qu'il voyait davantage dans le christianisme. Ici, vous voyez un peu le mépris de Rousseau pour le peuple juif, mais quand même le respect pour la religion chrétienne, qui est la mieux expliquée, mais qui est quand même un peu trop encombrée, hein, de choses absurdes. La vie de Jésus et ses miracles. Mais Pascal croyait aux miracles. Il avait même été très fort touché par un miracle qui avait concerné sa nièce. Hein, vous vous souvenez, la petite Perrier qui avait été guérie par la sainte Épine avait fort impressionné Pascal, qui croyait au miracle. Tandis que Spinoza, il démythologise pas mal de miracles, mais il dit que Jésus avait un don de thaumaturge. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'esprit et le corps en Dieu. Et là, il a une proposition là, de son éthique qui dit « Celui qui connaîtrait parfaitement et son esprit et son corps en Dieu, vivrait une espèce d'unité d'action tout à fait merveilleuse. » Et c'est comme ça qu'il explique un peu les capacités de thaumaturge de Jésus, qui, avec son esprit et son corps, rencontrait l'autre à un niveau donc que personne ne pouvait atteindre. Donc Rousseau lui rejette carrément hein, tous les miracles. Vous vous souvenez aussi que Pascal donnait beaucoup d'importance à la transsubstantiation. Hein. Eh bien bon, ici évidemment, ça c'est de la prêtraille, hein, selon lui, c'est des histoires de prêtres. Hein. La Trinité et la création. Bon, ben pour Pascal, oui, il y a une Trinité, mais pas beaucoup d'Esprit Saint, je crois. Hein. Il y a Dieu, il y a le Christ très fort. On ne connaît Dieu que par le Christ. Si on ne connaît que le Dieu des philosophes, c'est un faux Dieu, même s'il est monothéiste. Hein. L'idole peut être un Dieu unique, et un Dieu même personnel. Mais c'est une idole si ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. La création... Mais bien sûr, il y a une création pour Pascal et pour Rousseau. Est-ce qu'il y a une création pour Spinoza? Est-ce qu'il y a une création pour Spinoza? Ben, nous sommes sub specie eternitatis. Hein? Donc tout est toujours nécessaire, de toujours à toujours, tel que c'est là. Je ne sais pas s'il y a une création chez Spinoza. Les facultés de l'homme. Raison, cœur, et leur rapport à la foi, ben il est certain qu'on voit une parenté entre Pascal et Rousseau sur la question du cœur. Hein. Ce n'est peut-être pas le même cœur tout à fait, mais quand même c'est quelque chose de plus intuitif, de plus affectif si on veut, de plus volontaire, qui commande hein, la raison raisonnante. Alors que bien sûr, chez Spinoza, c'est tout l'inverse. Hein. Vous vous souvenez des cinq parties de l'éthique? Ben, on parle des sentiments, on parle de l'entendement, puis on parle de la servitude des sentiments et de la liberté de l'entendement. Donc évidemment, hein, vivre selon le sentiment, c'est vivre dans la servitude, selon l'éthique de Spinoza. Le christianisme et les autres religions, ben pour Pascal évidemment, le christianisme est la religion principale, mais vous savez que donc il hésitait avec ce jansénisme, hein, est-ce que le pape avait raison, etc. Donc il y avait une difficulté là. Pour Spinoza, bah, le christianisme était une religion plus universelle que le judaïsme. Et pour Rousseau, c'est quand même bon, la religion naturelle la mieux expliquée, venant du calvinisme, passant par le catholicisme, revenant au calvinisme, et puis se faisant exclure par les calvinistes, les dévots, comme ils disaient. De la haute ville. Le péché et la grâce, ben évidemment, grandeur et misère de l'homme, chez Pascal. Hein? Donc le péché est très présent. Il y a même une pensée qui dit, hein, si tu savais à quel point tu es pécheur, tu ne survivrais pas, quoi. Hein? Et la grâce, bien sûr, la grâce, ben oui, c'était toute la question de la grâce chez Pascal. Hein? Est-ce que la grâce est suffisante? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est toute puissante, etc. Tandis que, bien sûr, chez Spinoza et chez Rousseau, il n'y a pas de grâce. Il n'y a sans doute pas de péché non plus. Hein, chez Spinoza, est-ce qu'il y a un péché? Oui, il y a le bien, il y a le mal, mais tout ça, finalement, la somme égale zéro dans la grande nécessité du tout, quoi. Hein. Le salut et la vie après la mort. Bon, mais certainement que Pascal et Rousseau croient à une vie après la mort. Hein. Pascal, bien sûr, différemment, il croit à la résurrection. Rousseau ne croit pas à la résurrection, mais il croit à l'immatérialité et l'immortalité de l'âme, postulat de la conscience morale. Ben, chez Spinoza, le salut, c'est quoi? Ben, le salut, c'est vivre ici-bas dans la joie de l'amour intellectuel de Dieu. Le salut, c'est pas quelque chose qui viendra après la mort. Ça, c'est... Le salut, c'est hic et nunc, maintenant, vivre la joie intellectuelle, on avait parlé, hein, est-ce que c'est possible d'avoir une joie purement intellectuelle, pas affective, mais de l'amour de la mort déi, de l'amour de Dieu. Donc voilà, il y a quand même une notion de salut chez Spinoza, mais qui est limitée à cette vie-ci, mais qui est, cette vie-ci est sub specie eternitatis, ça veut dire qu'elle est dans l'éternité. Le salut, c'est faire entrer l'éternité dans la vie présente, ou à l'inverse, hein, faire passer sa vie présente dans l'éternité. Avec cette seconde naissance, très johannique, hein, cette seconde naissance qui tout à coup nous fait voir eh bien, que le monde est est un monde qu'il faut dépasser, hein, dans une autre intuition de ce qu'est le monde et de ce qu'est Dieu.